Effectivement, c'est une grande joie pour Françoise et moi d'être là. On n'est pas trop loin, on habite à Codognan. Je suis juste à côté et puis on est très content d'être là. Nous allons prier, prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est accessible à chacun d'entre nous, même aux enfants qui sont là ce matin. Donne-nous Seigneur de la recevoir avec simplicité, avec sobriété et avec foi, nous demandons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de Néhémie. Et c'est peut-être une des plus belles pages de la Bible. C'est un texte qui est vraiment magnifique dans le chapitre 8 de Néhémie. Et je vais dire donc, avant d'aller au centre de ma prédication, quelques mots d'introduction. Pour situer donc le contexte, vous connaissez le livre de Néhémie, je pense. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstruit la muraille. Mais ce n'est pas le message principal du livre de Néhémie. Néhémie, non seulement il a reconstruit les murailles en 52 jours, mais il a reconstruit le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 586 avant Jésus-Christ, donc c'est le roi Nebuchadnezzar, donc il va attaquer donc le peuple et ils vont attaquer donc le temple et ça va être attaqué en trois reprises. Vous avez tous les détails horribles dans deux rois chapitre 4-25. Ils vont donc démolir donc le temple, ils vont démolir les murs autour de Jérusalem et puis ils vont brûler les maisons. Et puis, par la suite, ils vont prendre le peuple, ils vont les arracher, ils vont les prendre à 1500 kilomètres plus loin. Donc, c'est depuis Vauvert jusqu'à Glasgow, pour vous donner une idée, à pied, attention. Et puis, ils vont rester pendant 70 ans de captivité en Babylone. Donc, vous allez voir dans la suite la distance. Donc, là, ils ont été pris en captivité. Et puis, il y a eu non seulement des attaques, mais il y a des retours à Jérusalem. Après ce qui s'est passé, nous allons voir, il y a eu donc trois retours à Jérusalem. Il y a un retour donc avec José, Zerubbabel et Esdras, et puis il y a un retour donc avec Néhémie qui va revenir, et en 52 jours, c'est précisé ici, ils vont reconstruire les murailles, et puis c'est dans les chapitres 6, et puis dans les chapitres 7 et 8, nous allons voir, donc, c'est le réveil. J'aimerais donc lire ce texte du chapitre 8, versets 1 à 12, et dans le texte, lorsqu'on lisait la parole de Dieu, on se levait. Et vous savez qu'ils sont restés debout pendant 4 heures, mais ce n'est pas le cas ce matin, mais je vais quand même vous demander de vous lever pendant la lecture de ce texte. Et que vous allez voir donc à l'écran. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Métia, Shema, Anaja, Uri, Hilkaja, Maséja et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Hasbadana, Zacharie et Machalom. Esdras ouvre les livres à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple lorsqu'il eut ouvert, et tout le peuple s'éteint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen. » Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shebetia, Hodija, Maseja, Kiltia, Azaria, Josabad, Hana et Pelja. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en donnant le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, le Lévite, qui enseigne le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'on ne comprend pas, ça pose problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me déchiffrer donc la première phrase qui est en thaïlandais ici? Est-ce qu'il y a des thaïlandais parmi nous? Il n'y a pas de thaïlandais. Est-ce qu'il y a des polyglottes parmi nous? Oui, mais ça va venir après. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Parce que Françoise et moi, nous sommes allés en Thaïlande plusieurs fois. Notre fille, elle est thaïlandaise. On ne comprenait rien. Et puis, parfois, on parle en anglais, les gens parlent avec les nez, les yeux et les mains. C'était très compliqué. Et lorsqu'on ne comprend pas, ça conduit donc à la frustration et à la difficulté. Donc, cette première phrase veut dire, j'ai besoin d'aide. C'était très utile pour nous lorsque nous étions là-bas. J'ai besoin d'aide. Et lorsqu'on ne comprend pas, on a besoin d'aide. La deuxième phrase, en chinois, est-ce que vous voulez nous dire la signification, ou dire aux autres, allez-y. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, merci beaucoup. Hein. Et en arabe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la dernière phrase? Non, tu devines, mais ce n'est pas ça. Ça veut dire, je suis un homme heureux. Regardez bien la suite. L'incompréhension, la frustration. Lorsqu'on ne comprend pas, et même lorsqu'on est devant la parole de Dieu et on ne comprend pas, ça pose problème. Ça peut être aussi le cas pour nous ce matin. C'est vrai pour les langues. Lorsqu'on ne comprend pas les langues, c'est vrai aussi pour une partition de musique, si on ne sait pas lire la musique, enfin moi je sais plus ou moins la musique, mais si quelqu'un me donne une partition et de lire sans avoir lu, je commence à paniquer, n'est-ce pas? C'est vrai aussi si vous êtes donc au restaurant et vous avez uniquement un QR code devant vous et vous n'avez pas votre téléphone. Comment faire pour comprendre? On ne comprend pas. C'est la frustration. Aussi, vous venez d'acheter une meuble. Francis et moi, on vient d'acheter des meubles. Et j'ai mis des meubles sur notre escalier. Lorsqu'on a vu à l'exposition, c'est formidable. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, j'ai tous dans des cartons. Il y avait les notices. C'était compliqué. Ça nous a pris 3 jours pour le monter. Hein? C'est compliqué lorsqu'on ne comprend pas. Vous allez voir dans le dia qui suit donc un schéma qui résume ce que j'aimerais communiquer ce matin. Vous avez dans ce schéma, vous avez sur ce triangle le contexte de ce que nous venons de lire. Il y a un événement qui va avoir lieu, et vous allez le comprendre par la suite lorsque j'arrive vers ma conclusion. Il y a un événement qui va se passer et suite à cet événement, il y a un point tournant. Et puis, il y a des conséquences que nous allons voir tout à l'heure. Donc, dans le texte, nous avons tout le peuple, Esdras, le Lévite et le Néhémie, donc, qui étaient là. On va voir donc la suite maintenant. On va voir le prochain dia. Lorsqu'on lit les textes bibliques, parfois, on ne comprend pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans le verset 1, il dit « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. » Tout le peuple était assemblé. Mais combien de personnes sont là? Est-ce que vous savez combien de personnes sont là? Et lorsqu'on lit ce texte, on dit peut-être il y avait 20, peut-être il y avait 30, peut-être il y avait 100 personnes. Mais si vous lisez attentivement le texte, dans le chapitre 7, si vous faites l'addition, ce que moi j'ai fait, il y avait, tenez-vous bien, 49 935 personnes. Ça fait une grande assemblée, n'est-ce pas? Alors, je donne ce chiffre, mais vous ne comprenez pas ce chiffre. Donc, je cherche une salle dans laquelle je peux vous mettre tout le monde. C'est Bercy, donc, à Paris. Mais c'est trop petit. Je regardais sur Internet, il n'y a qu'entre 13 000 et 15 000 places. Donc, ce n'est pas assez grand. Donc, je cherche une autre salle. Regardez. Voilà, c'est plus grand, vous connaissez. C'est le Stade de France. Donc, c'était possible donc, de mettre ce peuple dans ce stade, parce que dans ce stade, il y a 75 000 places. Donc, j'ai une question pour vous. À cette époque, il n'avait pas de micro. Comment est-ce qu'il faisait? Dites-moi. Il était en hauteur, on a vu. Il est en hauteur, mais ce n'est pas la bonne réponse. Parce que si vous lisez attentivement dans le texte, les personnes étaient placées de manière stratégique pour relayer la parole à des personnes qui étaient derrière. C'est très intéressant. C'est une foule immense. Et quel beau spectacle de voir tout le peuple. Il dit dans le texte, ils sont assemblés comme un seul homme sur la place devant la porte des eaux pour être donc à l'écoute de la parole. Et regardez bien la disposition du peuple. Disposition de leur cœur. Ils étaient solidaires les uns avec les autres. Ils étaient unis. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Et si vous lisez la suite du texte, vous allez voir, ça les réveille. Un signe de réveil, c'est lorsque le peuple a soif pour la parole de Dieu. Et peut-être ce matin, vous pouvez prier cette prière. Seigneur, donne-moi soif de ta parole. Je suis chrétien depuis longtemps. J'ai déjà lu la Bible 3 fois ou 10 fois. Mais donne-moi soif pour ta parole ce matin. Ils avaient soif. Et puis, non seulement ça, mais ils ont donné une place centrale à la parole de Dieu. Je suis bien content que vous avez placé votre pupitre au centre ce matin et pas sur le côté. Dans certaines églises, on a placé le pupitre de côté. Hein? Et c'est la musique qui prend toute la place. Hein? Je ne suis pas contre la musique, mais l'important, que la parole de Dieu soit vraiment au centre et prend toute la place. Vous avez remarqué dans les textes qu'il est dit, tout ce qui est capable de l'entendre, donc on peut imaginer qu'il y avait des jeunes, des ados et des enfants. Et en rapport avec la parole de Dieu, il est important aussi que les enfants ils comprennent la parole de Dieu. C'est Spurgeon, le prince des prédicateurs, qui a dit que si un enfant de 11 ans ne comprend pas la prédication, c'est trop compliqué. Quelqu'un a dit ceci, c'est facile d'être compliqué, mais c'est difficile d'être simple. C'est important ça. Esdras, le scribe, c'était un peu le ministre de la justice. C'est le peuple qui demande à Esdras d'avenir. C'est pas Esdras qui dit maintenant je vais lire la parole de Dieu. Ils vont chercher cet homme. Et si vous lisez attentivement le livre d'Esdras, dans le chapitre 7, c'est un homme qui se préparait 13 ans auparavant pour cet événement. Il était chargé par le roi de se rendre à Jérusalem pour faire une enquête civile et religieuse concernant les conditions et d'existence de la communauté juive et de les inciter à l'obéissance. Esdras, c'est le roi qui va demander d'établir des juges et des magistrats, donc il avait une crédibilité incroyable. C'est un homme érudit, un scribe, versé dans la loi de Moïse. C'est un homme qui se préparait pour enseigner les autres. Et puis, le jour J viendra lorsque le peuple demande à Esdras de venir. Et pourquoi? Parce que 13 ans auparavant, dans le chapitre 7, verset 10, il est dit, Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Regardez bien ces quatre étapes. Regardez bien, c'est la suite, sauf erreur. Il y avait donc des personnes dans la foule qui étaient capables et compétentes pour expliquer la parole de Dieu. Il y avait Esdras, les Lévites et aussi une équipe pédagogique qui était présente dans la foule pour expliquer la parole de Dieu. Et puis, il y avait quatre étapes pour Esdras dans sa vie personnelle. Il avait appliqué son cœur. Il avait préparé son cœur. Et j'espère que, pas seulement les dimanches, mais chaque jour, vous prenez du temps pour préparer votre cœur avant de lire la parole de Dieu. Et puis, non seulement il va préparer son cœur, mais il va étudier la parole de Dieu. Il va analyser avec précision, observer, se concentrer et réfléchir sur cette parole de Dieu. Il va l'étudier. J'espère que vous faites de même. Et puis, troisièmement, il va mettre en pratique, il va appliquer avec exactitude les connaissances acquises. Et puis, quatrièmement, il va enseigner les autres. C'est magnifique, ça. Il s'est préparé. Donc, il y avait des pédagogues qui étaient présents, et il faut prier aussi que Dieu suscite dans votre église, je sais qu'il y en a déjà, mais d'autres personnes qui sont capables d'expliquer la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait 22 000 Lévites qui étaient formés pour enseigner le peuple, pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu, expliquer la loi, en donner le sens, et aussi enseigner d'autres personnes. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de donner une place centrale à la parole de Dieu dans notre programme de la journée. J'espère que vous avez retenu un moment précis, le meilleur moment de la journée, pour vous arrêter et pour lire la parole de Dieu. J'espère que aussi vous avez une place dans votre vie de famille aussi pour lire et expliquer la parole à vos enfants et aussi dans votre église. Je sais que cela existe. Et on doit aussi prier pour que Dieu suscite des ouvriers, des pasteurs et d'autres personnes pour enseigner la parole de Dieu. Alors, ce qui est intéressant et étonnant en même temps, le peuple ne demande pas à Néhémie, parce que Néhémie, c'est un visionnaire, il demande à Esdras. Il n'y avait pas de compétition entre ces deux hommes parce qu'ils ont travaillé ensemble, et ça, c'est beau, dans l'Église. Il est dit dans les textes que chacun restait à sa place. Chacun a des dons différents. Et c'est aussi une bonne question qu'on peut se poser. Quel est mon don? Quelle est ma place dans l'Église? Et si vous ne savez pas, peut-être vous pouvez demander à votre pasteur ou au conseil, quelle est ma place dans l'Église? Et de rester à sa place. Alors, quelles sont les conséquences de cette lecture? Vous allez voir à l'écran. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'il y avait, suite à cette lecture, les conséquences de la lecture de la parole de Dieu. Il y avait une grande fête. Il y avait une grande générosité parce que tout ce qu'ils ont reçu, ils vont donner aux autres. Ils vont partager avec les autres. Et puis dans le verset 15, il y a une grande proclamation. Ils vont proclamer à Jérusalem et dans toutes les villes aux alentours. Quelles conséquences de cette parole de Dieu qui était comprise? Et puis il y avait une obéissance exemplaire. Et puis il y a un retour aux sources. Car quand c'est fini, ils vont recommencer. Ils vont écouter la parole pendant 3 heures et 4 heures. Le lendemain, ils vont recommencer à écouter cette parole de Dieu. Donc, on peut dire que les enseignants, ils ont fait de bon boulot, ils ont fait de bon travail, mais quel était leur secret? Ils ont un déclic. Regardez bien, ils ont un déclic. Parfois, lorsqu'on lit les instructions pour monter un meuble, on ne comprend pas, et puis ta femme dit, « Ah, j'ai compris, il y a un déclic qui se fait. » Il faut suivre les instructions. C'est quoi ce déclic? Eh bien, tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris, ils ont compris la parole de Dieu. Ils ont été réactifs, ils ont levé les mains. Il y en a d'autres qui ont pleuré, peut-être ça faisait très longtemps qu'ils n'ont pas entendu la parole et c'était rempli d'émotions. Peut-être ils ont oublié les interventions de Dieu, ont ignoré les enfants, les promesses de Dieu. Alors ils ont pleuré. Peut-être d'autres étaient dans la joie d'entendre cette parole de Dieu. Et il est dit dans le verset 17, depuis longtemps, depuis 1000 ans, un tel ressemblant n'a jamais eu lieu. Rien de pareil. C'était vraiment quelque chose de remarquable. Et ce qui est formidable, Esdras et les autres m'ont dit, ne pleurez pas, arrêtez de pleurer. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Pour nous, c'est vrai que la repentance conduit à la tristesse, certes, mais ça se transforme par la joie. Le pardon se trouve au pied de la croix, une puissance pour balayer les tristesses et pour semer la joie dans notre cœur. Non à la tristesse, oui à la joie, c'est la fête, c'est le partage. On va partager un repas tout à l'heure, ensemble, dans la joie. Et cette joie, c'est la joie de l'Éternel. J'aime bien cette citation que j'ai trouvée dans un livre. Mon Dieu, je ne veux pas seulement la paix qui surpasse toute compréhension, mais la compréhension qui apporte la paix et la joie. C'est beau ça. Mon Dieu, je ne veux pas seulement la paix qui surpasse toute compréhension, mais la compréhension qui apporte la paix et la joie. Parfois, je perds ma joie. Je perds ma joie quand je regarde trop les autres, quand je regarde trop les circonstances. Et il est dit dans le texte que la joie de l'Éternel sera votre force. La joie, c'est une puissance. Lorsque nous étions à Pierrelatte, vous savez qu'à Pierrelatte, il y a une grande centrale nucléaire, donc il n'y avait que des chrétiens rayonnants dans notre église. Vous avez compris? Mais il y avait une fille qui se convertit. Effectivement, elle travaille dans la centrale. C'est une fille, elle n'avait pas beaucoup de connaissances, mais elle avait une joie débordante. Elle a amené des personnes à notre église. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus membres d'église. Et aujourd'hui, ils sont des piliers de cette église. Parce qu'une personne a su véhiculer la joie. Et peut-être pour une raison ou une autre, vous avez perdu cette joie du Seigneur. À cause des circonstances, à cause des autres, à cause des critiques. Eh bien, ce matin, je vous invite de revenir au pied de la croix et de demander au Seigneur de vous redonner la joie du Seigneur. Qu'est-ce que la joie? Eh bien, c'est une émotion délicieuse et difficile à cacher. On veut le partager avec les autres, cette joie du Seigneur. C'est un athée qui a dit, je deviendrai chrétien quand je verrai les chrétiens avec des têtes de ressuscités. J'aime bien. Quelqu'un me dit, mais parfois quand je vois des gens sortir des églises, on a l'impression qu'ils étaient baptisés dans des jus de citron. qu'ils ont perdu la joie. La joie du Seigneur, c'est une puissance dans l'évangélisation. Et ici, dans ce texte, ce n'est pas quelqu'un qui est content, mais c'est toute la communauté. C'est une célébration communautaire. Le partage, la générosité, verset 12, la proclamation. À cause de cette joie qui vient du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le prochain dia. Vous avez remarqué? Je ne vous ai pas oublié, hein? Parce que lorsque je vous ai montré le schéma au début, je vous ai montré les différents personnages qui étaient là, dans le grand triangle. Et je fais exprès de ne pas mentionner que vous étiez là, avec cette foule, avec cet homme Esdras, un homme de réveil qui avait la parole ouverte. Et des siècles après, nous sommes là. Cette même parole, cette même puissance qui est là pour nous transformer et transformer la vie des autres, elle est là à notre disposition. C'est une bonne nouvelle. Cette parole puissante, vivante, transformatrice, elle est là. Seigneur, donne-moi de recevoir ta parole dans mon cœur. Donne-moi de la porter aux autres. Donc, j'arrive vers ma conclusion. Lorsqu'on comprend, ça change tout. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Eh bien, cette parole d'Esdras est valable aussi pour nous aujourd'hui, pour nous transformer. Et ce qu'on a compris, on n'a pas besoin d'expliquer. Et c'est Jésus qui l'a dit, et notre frère l'a cité ce matin, c'est donc dans Matthieu 13, verset 23, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, et celui qui l'a entendu, et celui qui l'a compris. C'est celui-là qui porte beaucoup de fruits. Donc ces étapes, entendre, recevoir et comprendre, et puis mettre en pratique. Donc ce déclic est possible ce matin. Si nous nous mettons tous en œuvre pour lire, méditer, étudier, mettre en pratique et aussi enseigner les autres. Donc, je veux vous encourager, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, aussi de mettre la parole de Dieu au centre de la famille. Et quand j'avais 3 ans, mon frère avait 5 ans, et j'avais aussi une petite sœur, tous les jours, mes parents ayant pris du temps pour lire la parole de Dieu. Et avant de partir à l'école, ma mère a pris chacun d'entre nous sur ses genoux. Elle a lu un verset avec nous. C'est merveilleux, ça. Et comment ils ont pris ça? Eh bien, ils ont pris ça de leurs parents. Ils ont pris ça de nos grands-parents. Et je vous encourage donc à transmettre de génération en génération la parole de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour l'Église dans votre famille. Je vous encourage à envoyer vos enfants, vos petits-enfants. Nos petits-enfants, aujourd'hui, ils ont pris le train depuis Paris. Ils vont aller donc à Matagna pour faire des camps. Et pendant, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, moi, j'ai fait des camps. Il est important d'envoyer nos enfants, nos petits-enfants dans les camps, loin des parents. Comme ça, les parents peuvent se reposer. Et dans ces camps, la parole de Dieu est vraiment au centre. Et ça peut avoir un impact formidable. Donc, compréhension. Compréhension, pas tout seul, mais compréhension avec les autres. Alors, vous avez vu toutes ces conséquences dans la vie du peuple, la joie communautaire, la proclamation, l'évangélisation, l'obéissance, la repentance, l'adoration et aussi la reconnaissance. Quel programme pour chacun d'entre nous? Car le peuple, ils ont compris la parole de Dieu. Maintenant, une application pratique. C'est bientôt les vacances pour certains, peut-être aujourd'hui, peut-être le mois d'août, je ne sais pas. Et il y a ici, donc, vous avez reçu une feuille. Chacun a reçu, vous pouvez le partager. Elle est très intéressante, cette feuille. C'est une méthode utilisée au 5e et 6e siècle pour se laisser toucher par la parole de Dieu en 5 étapes. Donc, je me prépare. Je réserve le temps quotidien nécessaire dans mon agenda, les meilleurs moments de la journée pour lire la parole de Dieu. Je m'installe dans un lieu calme et agréable. Je fais appel au Saint-Esprit afin qu'il m'éclaire dans ma lecture. Première étape. Deuxième étape, j'écoute la parole de Dieu. Je lis le texte biblique plusieurs fois, lentement, à voix haute. Troisième étape, je médite la parole de Dieu. Je relis en silence et mémorise intérieurement le texte. Quelle est l'impression générale? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Quels sont les personnages clés? Quels sont les mots importants? J'écoute ce que Jésus veut m'apprendre avec le texte. Et puis, j'ai pris la parole de Dieu. Je vous encourage, avant de prier, d'ouvrir la parole de Dieu et de lire la parole de Dieu avant de prier. Et puis, de nourrir votre prière avec le texte biblique. Je prie la parole de Dieu. Je prie le texte en reformulant avec mes propres mots ma prière. Je lui demande de faire fructifier sa parole en moi. Je demande pardon pour le décalage entre ce texte et ma vie. Et puis, cinquième étape, je vis la parole. Je reste en silence avec mon Dieu et je goûte sa présence. Je demande à Dieu de m'accorder sa force pour vivre ce texte durant la journée et de la porter aussi aux autres. Pour conclure, je vous propose une belle prière pour accueillir et recevoir la parole de Dieu. Comme l'enfant reçoit le pain, comme l'oiseau reçoit l'espace avec le grain, comme l'ami reçoit l'ami, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte du fruit, donne-moi, Seigneur, d'accueillir, de recevoir ta parole. Amen. Nous allons chanter comme un souffle fragile. C'est un cantique que j'aime bien, je pense que vous connaissez. Avant de chanter, on va juste avoir une minute de silence et vous pouvez prier intérieurement pour vous-même. Demandez au Seigneur de vous renouveler, de vous aider aussi à être discipliné dans votre vie personnelle, de vie de famille et vie d'église, pour que cette parole puisse porter du fruit aujourd'hui et jusqu'à dans l'éternité. On va avoir juste un petit moment de silence avant de chanter.